Fabienne Lemoelle.
Le spectre d'une deuxième vague avec le virus qui circule trop vite dans les grandes villes, c'est ce qu'a dit cette semaine Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui doit faire un nouveau point demain, notamment sur l'état des services de réanimation. Et c'est un des indicateurs clés qui témoigne de la progression ou pas du virus. Bonjour professeur Bertrand Guidet.
Bonjour.
Chef du service de réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Merci infiniment d'être avec nous en studio ce midi sur Europe 1. Vous êtes une nouvelle fois en première ligne, comme en mars. J'ai juste envie de vous demander déjà, quelle est la situation de votre service ce midi? Car Olivier Véran dit, les choses évoluent très vite.
Alors la situation pour le service dont j'ai la charge, c'est 12 lits prévus pour prendre en charge les malades Covid et 10 lits occupés. On est à peu près sur ces chiffres-là depuis une dizaine de jours avec des flux entrants, des flux sortants. Ce qui me fait dire qu'on n'est pas réellement dans une deuxième vague, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une aggravation brutale de l'épidémie, mais on est dans une montée progressive. L'image que je donne pour garder une image maritime, c'est une marée montante. C'est-à-dire que les services se remplissent et on n'est pas dans la même situation du tout qu'au printemps dernier.
Sauf que vous voulez continuer, j'imagine, à soigner d'autres malades qui ne sont pas des patients Covid, c'est tout le problème.
Alors, absolument. Donc, on a pu mesurer que la déprogrammation au printemps dernier avait eu des conséquences pour des malades non-Covid avec des pertes de chance. Donc, il faut absolument préserver une activité non-Covid. Et on va entrer en automne et après en hiver. Et c'est des périodes dans lesquelles les services de réanimation sont d'habitude déjà pleins.
Ça veut dire que vous avez déjà commencé, professeur Guidet, à déprogrammer des opérations pour libérer des places?
Oui. Alors, mais le début de la déprogrammation est relativement simple, c'est-à-dire qu'on va dire 10 à 15% de déprogrammation. On a prévu de pouvoir aller jusqu'à 50%, mais on voit bien la limite de l'exercice, c'est-à-dire qu'il faut effectivement pouvoir assurer une offre de soins pour les malades non-Covid. Il n'y a pas de raison de diriger tous les moyens de l'hôpital pour la prise en charge de malades Covid au détriment des autres malades. Et donc, on a un plan de montée en charge progressif en fonction de la demande de soins pour les malades Covid. Mais il y aura un arbitrage à faire entre les malades Covid plus et les malades Covid moins.
Ces personnes en réanimation, on sait où et par qui elles ont été contaminées?
Alors, c'est assez difficile de le dire. Il y a plusieurs sources de contamination. On a l'impression que les sources de contamination professionnelles sont relativement modérés dans l'ensemble des contaminations.
Vous voulez dire que ce n'est pas sur le lieu du travail dans l'entreprise?
Les gens font relativement attention et quand on regarde chez les soignants, il y a quelques soignants qui sont contaminés, mais ce n'est pas considérable. Donc je pense que les gestes barrières sont relativement bien respectés dans le milieu professionnel. En revanche, il y a, c'est vrai, un certain nombre de circonstances où il y a un brassage de personnes qui ne portent pas le masque. Et là, c'est des situations quasi expérimentales pour transmettre le virus.
À quel endroit particulièrement? Dans la famille?
C'est le problème. Non, dans la famille, bon, il faut certainement faire attention. Si on va mélanger des générations différentes, on peut imaginer qu'effectivement, la personne âgée porte un masque, n'embrasse pas ses petits-enfants, etc. Mais c'est en intrafamilial, c'est relativement modeste. Non, ça pose effectivement le problème des lieux publics avec une densité de population importante. Ça pose donc le problème des bars et des restaurants.
Justement, le ministre de la Santé doit faire un nouveau point demain. Pour vous, est-ce qu'il faut passer à la vitesse supérieure, fermer les bars et les restaurants parce que l'alcool aidant, forcément, on se relâche?
Alors, je fais un distinguo entre les restaurants et les bars. Je pense que les restaurants sont beaucoup moins à risque. Les gens sont assis, les tablés, c'est 8-10 personnes. On peut imaginer des gestes barrières relativement faciles à appliquer. Pour les bars, c'est plus compliqué. Effectivement, les bars, les gens sont relativement agglutinés les uns à côté des autres. Les gens ne portent pas le masque. Et donc, moi, je serais plus inquiet pour les bars que pour les restaurants.
Donc, pour vous, il faudrait vraiment, clairement, aller vers une fermeture des bars ou un nouveau protocole sanitaire encore?
Alors, après, l'idée de 22 heures, je vois bien, effectivement, les humoristes qui disent il n'y a pas de virus à 22h moins 5 et il y a un virus qui arrive à 22h05. Non, mais c'est sûr que plus on avance dans la soirée, plus on a pris d'alcool, plus on a envie de rigoler et plus, effectivement, on ne respecte pas les gestes barrières et on a des opportunités de contamination interhumaine.
Par rapport au masque, professeur Guidet, comment faire plus ? Puisque, notamment à Paris, on doit le porter sur son lieu de travail, on doit le porter dans la rue, on doit le porter dans les transports en commun.
Ben, il va falloir s'habituer, effectivement, à porter ces masques. Hein, ce n'est pas dans notre culture. Quand on regarde la culture asiatique, c'est dans leur culture. Ça a contribué certainement à diminuer la diffusion du virus. À Hong Kong, par exemple, qui est une ville particulièrement dense, il y a eu très peu de cas de coronavirus. Donc, c'est la mesure barrière majeure. Et il faut apprendre à vivre avec. Et quand je vous donnais l'image de la marée montante, bien cette marée, on va la voir pendant 6 mois. Et donc, effectivement, pendant 6 mois, il va falloir s'habituer à vivre avec un masque sur le nez et sur la bouche.
Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui ?
Moi, ce qui m'inquiète, c'est la période hivernale. C'est-à-dire qu'on sait que l'hôpital est déjà en tension en temps normal pendant la période hivernale. La décompensation des maladies chroniques, les maladies hivernales. Et donc, si on rajoute ne serait-ce que 20 à 30% de malades supplémentaires, on va avoir beaucoup de mal à faire face. Et l'autre élément, c'est qu'il y avait des solidarités interrégionales au printemps, mais là, maintenant, toute la France est atteinte. Et donc, on ne pourra pas ou peu s'entraider d'une région à une autre.
On ne pourra pas faire de transfert de malades d'une région à une
autre. Exactement.
Qu'est-ce que vous nous dites à nous ? Parce que je vous le disais tout à l'heure hors micro, semaine après semaine, je reçois à ce micro des spécialistes du virus, des médecins qui répètent les gestes barrières, les gestes barrières. Comment faire entrer ça dans nos crânes ? Que c'est par nous que ça passe ?
C'est un virus. C'est un virus qui se transmet par les gouttelettes. Alors après, on peut parler des aérosols, mais c'est relativement mineur. Et donc, si c'est une maladie contagieuse qui se transmet par les gouttelettes, eh bien, le point principal en termes de prévention, eh bien, c'est le port du masque.
Celui que nous avons en ce moment, tous les deux, en studio, pour
voilà,
éviter
alors après,
cette transmission.
On peut discuter du type de masque, les masques en tissu, mais voilà, ça, c'est un petit peu des points techniques. Je crois qu'il faut effectivement porter le masque.
Merci beaucoup, professeur Guidet, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1 pour nous rappeler ces gestes barrières, évidemment ce port du masque capital pour stopper la contamination. Merci beaucoup.